Bonjour, je m'appelle Sarah-Anne. Je vais aujourd'hui interviewer Stéphanie Ripamonti. Dans le fond, elle a fait des études en génie civil. Elle a une maîtrise dans l'environnement à l'École polytechnique de Milan, qui est en Italie. Puis elle a beaucoup d'expérience dans l'environnement. Elle a 16 ans d'expérience dans les secteurs des sols contaminés, les eaux usées, les émissions en atmosphère, la gestion des déchets et le recyclage. Donc, bonjour Stéphanie.
Bonjour Sarah-Anne.
Aujourd'hui, on a choisi de parler de l'empreinte écologique, les impacts de l'environnement. Donc, dans le fond, l'empreinte écologique, c'est un peu une façon de mesurer l'impact de l'environnement que les gens ont. On mesure ça en une superficie qui est en hectares carrés, pour dire l'impact des gens. Donc, premièrement, qu'est-ce qui t'a incité à choisir ce sujet-là, dans le fond?
Bien, je dirais plus en général, ce qui m'a toujours intéressé depuis que je suis jeune, c'est la protection de l'environnement. Comme tu dis, j'étudiais en Italie, je vivais en Italie dans un environnement très industrialisé à Milan. Donc, j'ai vu des rivières très polluées, l'air très pollué. Parfois, on devait mettre des masques pour aller à l'école. Puis, parfois, on choisissait quelle couleur aujourd'hui la rivière a, parce qu'il y avait une usine de teinture qui lâchait des versets des rejets polluants dans la rivière.
La réalité est différente ici, dans le fond.
Oui, très différente. Donc, depuis que je suis très jeune, j'ai été sensibilisée à ça et puis j'ai décidé d'en faire mon travail. Et quand j'ai choisi d'étudier en Italie pour l'environnement, j'ai vraiment voulu explorer plusieurs secteurs tels que les sols, les eaux, l'atmosphère, parce que c'est tout un, on est sur la Terre, puis ça dans le fond, ça nous appartient pas.
Ouais, ça nous concerne tout le monde, dans le fond, là.
Oui.
C'est sûr que c'est un sujet qui est de plus en plus d'actualité aussi, là. On en entend beaucoup parler à l'école. Les gens, ils ont des cours là-dessus, puis... C'est vraiment intéressant, là.
Oui.
Donc, déménager ici par la suite.
Oui.
Puis, vous avez commencé à travailler dans un domaine manufacturier pour les mines. Puis, dans le fond, c'est en quoi consiste votre travail?
Donc, ici, c'est une usine manufacturière. On produit des produits pour le secteur minier. Et dans le fond, c'est une usine qui est très ancienne. Donc, il y a des problématiques au niveau de l'historique. Quand l'usine a été créée, il y a plus de 120 ans, il n'y avait pas le terme environnement qu'on n'était pas encore connu. Donc,
oui.
On rejetait des polluants dans la rivière, on avait des sols contaminés, on ne se souciait pas de ça, on ne connaissait pas les impacts. Donc, mon travail ici consiste en partie à remédier un peu la problématique du passé. Mais une autre partie, c'est aussi de vraiment comment diminuer, disons, l'impact de la compagnie et l'empreinte écologique générale de l'entreprise. Et donc, il y a différents secteurs.
Avez-vous un exemple de quelque chose qui a été amélioré depuis que vous êtes ici et qui aurait comme vraiment beaucoup de différences par rapport à avant, là?
Oui. Ben, un bon exemple, c'est une des émissions. On avait des grosses émissions d'un solvant spécifique. On les appelle les composés organiques volatiles, une sorte de solvant. Et depuis des dizaines d'années, donc les ingénieurs ici ont installé un système pour maintenant récupérer en boucle fermée tout ce solvant. On ne le rejette plus en atmosphère et à 99% est récupéré et réutilisé. Donc ça, c'est un projet qui a été fait.
C'est vraiment grosse amélioration par rapport à avant, ça, dans le fond.
Oui. Puis l'année passée aussi, on a fait un des impacts. Quand on parle d'empreinte écologique, c'est la consommation d'eau. Donc, on était des gros consommateurs d'eau parce qu'on a des lignes, en particulier une ligne d'extrusion pour le plastique. Donc, pour refroidir le plastique, on utilise de l'eau qui doit être refroidie. On utilisait de l'eau de la ville municipale, l'eau potable, pour le refroidissement du plastique. Maintenant, on a changé l'unité par un refroidisseur à l'air, qui est beaucoup plus efficace, et n'utilise plus d'eau. Donc, l'eau qu'on utilise est récupérée en boucle aussi. Okay.
Parce que dans le fond, cette eau-là, auparavant, n'était pas réutilisable après pour boire, c'est ça?
Non, on l'a rejetée. On l'a rejetée.
OK, c'est ça. Vous rejetez ça dans la rivière?
Oui, dans le système pluvial. D'autres améliorations, par exemple, côté énergétique, ça, c'est un gros impact. Là. Tout ce qui est consommation de gaz naturel, ici, on va au gaz naturel, et électricité. Dans plusieurs de nos bâtiments, on a installé des systèmes d'éclairage plus efficaces Et on a mis des systèmes de détection automatique de mouvement. Donc, auparavant, il y avait un bâtiment qui était 24 heures éclairé, même s'il n'y avait personne. Puis maintenant, il s'éclaire en rentrant, il détecte la présence de quelqu'un, d'un forklift ou d'une personne, puis l'éclairage s'allume automatiquement.
Et plus dans l'empreinte écologique en tant que telle, est-ce que vous pensez que ça pourrait devenir une mesure utilisée par les gouvernements qui pourrait être réglementée, qui pourrait être une base pour dire, bon, ben une entreprise va avoir une telle empreinte écologique, elle va payer telle amende ou quelque chose du genre? Est-ce que ça existe déjà ou vous pensez que ça pourrait exister à l'avenir?
Heureusement, il y a de plus en plus d'indicateurs côté environnement. Le terme d'empreinte écologique a été créé autour de 1990. Et c'est très vaste. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'impact carbone, du carbone émis par les compagnies, donc des gaz à effet de serre. Parce que dans le fond, dans l'empreinte écologique, un des facteurs les plus importants, c'est vraiment l'utilisation de combustibles fossiles, puis de l'émission en atmosphère, aussi des gaz qui sont émis par... créés par la combustion. Donc, au niveau réglementaire, on parle plus d'émissions de gaz à effet de serre. Il y a des seuils de déclaration. On n'a pas une contrainte d'émissions. Notre usine rejette environ, a une production d'environ 6 000 tonnes de CO2 équivalent, mais il y a maintenant une seuil de déclaration de 10 000 tonnes pour les usines, au-delà de laquelle ils doivent le déclarer. Il y a des mesures pour il y a le marché du carbone qui favorise l'industrie de l'application de nouveaux systèmes pour réduire les émissions et pour décontaminer, pour absorber le carbone, donc ça favorise, mais il n'y a rien de contraignant. Okay. Au niveau, par contre, je pense que l'indicateur empreinte écologique,
oui.
Dans le fond, quand on prend conscience d'un problème,
oui.
La première chose à faire, peu importe, c'est de prendre des indicateurs de performance.
Oui.
Nous, dans l'usine, on en a plusieurs. Combien on consomme, combien on produit, le cycle, l'efficacité des machines et tout. Côté environnement, l'empreinte écologique, c'est une valeur qui donc détermine vraiment, qui donne l'indication de comment l'humain a un impact sur la Terre. Donc, on la mesure en termes d'hectares. Donc, ça, c'est un indicateur qui fait vraiment prendre conscience les gens de leur impact sur la société et sur la Terre.
Ouais.
Et si on regarde actuellement l'empreinte écologique, il y a des pays, les pays dans les Émirats arabes, les Qatar, qui consomment 20 fois plus que des pays sous-développés.
Comme par exemple la Chine doit avoir une empreinte écologique assez élevée. Ouais.
Puis le Canada aussi, c'est dans les 10 premiers, et les États-Unis aussi. Plus une nation, un pays est riche, plus gaspille. Malheureusement, c'est ça. Et...
c'est la réalité dans pas mal tout, c'est ça. Là. Ouais. Autant au niveau de la nourriture que justement de la pollution.
Exactement.
C'est nous qui les plus gros émissions de CO2 et ces choses-là.
Ouais. Oui. Donc, le fait qu'on a un indicateur qui mesure à chaque année, on va dire, où on est, est-ce qu'on est en train de réduire ou d'augmenter, quels pays le sont le plus haut, c'est un indicateur qui fait prendre conscience et qui facilite après les gouvernements à prendre des mesures.
Mais est-ce qu'il y a possibilité de trouver quelque chose, je ne sais pas, l'électricité ou peu importe, comme là, il y en a avec les voitures électriques, mais y aurait-il possibilité, dans le fond, de vraiment réduire beaucoup les empreintes écologiques des compagnies, parce que c'est ceux qui vont toujours polluer à un certain point, puisque pour produire, ça prend de l'électricité, puis ça prend de l'eau, puis ça prend certaines choses polluantes.
Oui, mais je dirais que maintenant, une chose qui est positive, c'est que quand on réduit l'impact, on a des investissements pour mettre des nouvelles machines, des nouveaux équipements, comme nous, le refroidisseur, c'était un gros investissement, presque 1 million, l'autre projet, 2 millions. Mais c'est des gros investissements qui apportent, font beaucoup d'économies, qui rendent des économies aussi monétaires et en, tout en réduisant l'impact sur l'environnement. Donc, il faut vraiment que les compagnies prennent ces initiatives pour réduire leurs émissions et leur consommation énergétique, leur consommation en eau. Mais ça, c'est pour les compagnies. Mais ouais, personnellement, chacun de nous a vraiment beaucoup à faire.
Oui, il y a beaucoup de... J'imagine au niveau de la sensibilisation aussi, ouais. Prévention puis tout ça chez les jeunes.
Oui.
Comme moi, à l'école, j'ai eu beaucoup de sensibilisation là-dessus. Là. J'imagine que c'est une bonne,
ah, c'est
une bonne méthode. Là.
C'est excellent. Je trouve que même si on voit tout noir, beaucoup négatif, mais... les jeunes sont beaucoup plus sensibilisés que les personnes plus âgées. Puis je le vois la transition, même à l'école primaire, on en parle, puis ça continue. Vous êtes au cégep et vous avez des cours sur l'environnement, c'est excellent. C'est comme ça parce que les gouvernements du futur sont vraiment faits par les jeunes d'aujourd'hui. Donc c'est un changement de mentalité qui...
Puis, est-ce que vous auriez un conseil, quelque chose qui permettrait, par exemple, de réduire l'empreinte écologique au niveau peut-être chez nous, des trucs simples à réaliser qui n'ont pas des gros coûts, là, mais...
Oui, ben je trouve qu'au niveau de personnel, il y a des secteurs comme le transport. Ça, c'est un des premiers, un des plus gros émetteurs de gaz de gaz à effet de serre et d'impact sur l'empreinte écologique, c'est le transport. Donc, vraiment, il y a de plus en plus d'auto électriques. Moi, je la prône beaucoup. Là, j'en ai une. Puis, ça fonctionne très bien. Je mets l'essence une fois par mois. Hybride rechargeable. Donc, c'est sûr que ça m'a coûté plus cher qu'une auto normale. Mais au long, avec les années, je vais avoir une économie vu que je n'achèterai pas de carburant. Et surtout, je me sens que je fais une partie dans la réduction de mon empreinte.
Dans le fond, faut pas nécessairement juste voir ça au plan de les économies en argent, mais aussi au terme des économies en rapport avec l'environnement et les générations
futures. Ah oui, c'est excellent ça, c'est vraiment ça. Puis, au niveau de la consommation énergétique, une chose importante ici, on a des maisons hyper grandes. On les chauffe, on les climatise. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Je pense qu'on devrait tous aller plus vers des maisons, des logements beaucoup plus petits, beaucoup plus performants côté efficacité énergétique dans le bâtiment, en termes de lumière, de chauffage et d'enveloppe du bâtiment, pour réduire donc cette consommation d'énergie. Au niveau de ce qu'on mange, on a tous les jours des produits qui viennent de partout dans le monde. On ne se soucie pas vraiment de leur provenance, du transport qui a été nécessaire, de l'énergie qui était nécessaire pour les créer, pour les produire. Mais ça sera un gros impact
donc, aussi. Donc, au niveau local, c'est quelque chose d'encourageant.
Excellent, c'est ça. Au niveau local, produits de saison, ferme biologique, pas d'utilisation de pesticides. Puis ça, c'est une grosse... Mais c'est sûr que, aussi, dans toute notre consommation, il faudrait vraiment préférer tous les produits locaux, en termes aussi de vêtements, tout ce qui est... Parce que si on regarde chaque produit qui vient d'ailleurs, toute la chaîne, tout son cycle de vie, ça c'est un autre facteur, un autre terme important, le cycle de vie d'un produit. Si on regarde l'eau qui a été nécessaire pour le fabriquer, l'énergie, et la consommation de tout... jusqu'à le transport. Puis une fois arrivé pour nous, si chacun pensait, est-ce que j'ai vraiment besoin de ce vêtement? Est-ce que je peux en acheter ici, localement? Est-ce que je peux le réutiliser? Est-ce que ce que je porte, je peux le donner à quelqu'un d'autre pour... est-ce que je peux reprendre des vêtements usagés, des meubles usagés? Moi, je suis très contente quand je peux échanger des choses usagées, pas parce que j'épargne côté monétaire, mais parce que je sais que, bon, j'ai donné une deuxième vie à un produit, j'ai évité de dépenser de l'énergie pour en créer un autre. Donc, il y a beaucoup de petites choses qui peuvent être faites.
Parfait. Donc, je pense que ça conclut un peu. On peut retenir que, bon, c'est sûr qu'il y a des améliorations au niveau des entreprises. Depuis peut-être les 100 dernières années, là, il y a eu des grosses améliorations. Il reste des améliorations à faire. Puis surtout, au niveau de l'empreinte écologique, il y aurait des améliorations à faire beaucoup au niveau personnel. On en entend beaucoup parler d'ailleurs. Donner une deuxième vie aux objets ou juste faire moins de gaspillage, ça aiderait beaucoup.
Recycler,
oui. Donc, merci beaucoup, Stéphanie.
Ben, merci à toi.
Pour cette entrevue.
Et puis, j'espère que vous en parlerez de plus en plus à l'école de l'environnement.